VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Conakry, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, au moins 3 morts et 2 blessés dans de nouvelles manifestations antigouvernementales à Bujumbura. Un sommet régional se tiendra le 13 mai en Tanzanie pour tenter d'enrayer la crise dans le pays. Le point avec Eddie Isango.
C'est Bernard Membe, ministre tanzanien des Affaires étrangères, qui a annoncé ce sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est le 13 mai à Dar es Salaam. C'était suite à la visite des 4 ministres des Affaires étrangères de la région à Bujumbura, où ils ont rencontré les présidents Nkurunziza, puis des leaders de la société civile et des partis politiques. Les chefs de l'État, Pierre Nkurunziza, déjà élu en 2005 par les parlements et réélu en 2010 au suffrage universel direct, a été investi le 25 avril par son parti, les CNDD-FDD, pour briguer un troisième mandat. Depuis, les manifestations quotidiennes sont sévèrement réprimées par les forces de l'ordre. Les violences ont fait 14 morts depuis le début des manifs. Craignant les pires, près de 25 000 Burundais ont fui pour se réfugier au Rwanda et en RDC.
Bénin, la marche de l'opposition interdite par les autorités pour cause de risque de trouble a quand même eu lieu hier à Cotonou. Mais elle a été stoppée après quelques centaines de mètres par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Certains protestataires ont commis des actes de vandalisme et brûlé des pneus sur la chaussée. D'autres précisions avec notre correspondant sur place, Peggy Ludovic Dagba.
C'est par ce cri que les militants des forces démocratiques de l'opposition ont entrepris la marche de ce jour pour dire non à la tentative d'arrestation de Kondida Zenaï. Toutes les forces de l'opposition avec à leur tête leurs différents leaders qui disent par cette marche soutenir leurs camarades malmenés par le pouvoir en place étaient au point de départ de cette marche. Léa Livina Yonsoglo, président de la Renaissance du Bénin, Saka Fikara et Lazare Serwitor, membre de l'Union Faire la Nation.
Ce qui s'est passé avec l'honorable candidat Zanaï est très grave. On a voulu purement et simplement l'enlever.
Et nous voulons la paix, mais pas l'esclavage. Yahi Boni, théoriquement, à 10 mois de la fin, veut faire une démonstration de force. Son idée est toujours dans sa tête. Il ne veut pas partir. Il faut que nous puissions nous battre pour que les libertés soient respectées, pour que la constitution soit respectée, pour que Yahi Boni parte.
On est là d'abord d'un côté pour qu'il n'y ait pas d'excès, de l'autre pour que la liberté ne soit pas embrigadée. Et il n'y aura pas d'excès. Les services d'ordre sont formels là-dessus. S'il y a un provocateur qui veut faire des excès, on va le maîtriser. On est là dans un ordre républicain. On est là dans une sérénité, dans la sérénité. Mais cette marche a lieu et elle continuera.
Interdite, la marche n'a pu arriver à destination. Face à l'intransigeance des forces de l'ordre, les marcheurs se sont frayés d'autres chemins, donnant du fil à retordre aux hommes en armes aux alentours du domicile du chef de l'État à Kadiaon, dans le 12e arrondissement. Ces hommes en armes ont encore eu recours au gaz lacrymogène pour disperser la foule. L'opposition béninoise va-t-elle s'en arrêter là? Les heures qui viennent, nous le dirons. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Burkina Faso, la veuve de Thomas Sankara, exilée en France depuis l'assassinat de son époux en 1987, sera entendue par le juge d'instruction militaire le 18 mai à Ouagadougou. Claire Morin-Gibault nous en dit plus.
Mariam Sankara est attendue le 14 mai à Ouagadougou. Selon maître Benewende Stanislas Sankara, elle sera entendue le 18 mai par le juge d'instruction militaire qui s'occupe du dossier. Au cimetière de Dagnoouin, dans l'est de Ouaga, une tombe affiche le nom du héros de la révolution burkinabé, mais ses restes n'ont jamais été identifiés. Le gouvernement vient de donner son feu vert pour l'exhumation du corps dans le but de l'identifier formellement. Le capitaine Thomas Sankara, arrivé aux affaires par un coup d'État en 1983, a été tué 4 ans plus tard lors du putsch qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré. Monsieur Compaoré, après 27 ans de règne, a été renversé le 31 octobre dernier par une insurrection populaire.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest, le Libéria en passe d'émerger de l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 11 000 morts dans la sous-région. Le pays espère être déclaré libre du virus causant la fièvre hémorragique ce samedi. Et son gouvernement a élaboré un plan de relance de l'économie libérienne. Jean-Roger Bion.
Faisant remarquer que son pays n'a pas enregistré de nouveaux cas ces derniers temps, le ministre libérien du Commerce et de l'Industrie, Axel Hadi, a dit que la ligne d'arrivée est proche.
So May 9th is our magic date.
Ainsi donc, le 9 mai est notre date magique. S'il n'y a pas de nouveaux cas, et je pense qu'il n'y en aura pas, nous aurons atteint la date butoir. Certains centres de traitement ont été fermés et d'autres sont en train de l'être, a-t-il expliqué. Conscient que le virus Ebola pourrait réapparaître, le gouvernement a mis en place un système de gestion pour faire face à toute urgence, a indiqué Axel Hadi. Cela inclut la mise en place de l'infrastructure médicale appropriée, le traçage de tous les cas potentiels et la surveillance de la situation aux frontières, a expliqué le ministre libérien du Commerce et de l'Industrie. En plus de la nécessité de renforcer son système de santé et de protéger ses citoyens contre une nouvelle épidémie, le Libéria est aussi confronté à l'immense tâche de relance de son économie. Avant que l'Ebola ne réduise tout à néant, le pays projetait un taux de croissance du PIB entre 5,9% et 7%. Avec les ravages de la crise sanitaire, ce taux s'est retrouvé en dessous d'1%. Selon le ministre d'État sans portefeuille Augustin Jarrett, l'Ebola a eu un effet de cascade sur tous les aspects de l'économie nationale, en particulier en ce qui concerne les principales exportations du pays, à savoir le caoutchouc et le minerai de fer. Des compagnies ont fermé, coûtant à des milliers de personnes leurs emplois. Les champs n'ont pas été cultivés, privant des milliers d'agriculteurs de leurs sources de revenus. Le pays doit diversifier son économie, a dit M. Jarrett, ajoutant que le gouvernement entend désormais accorder la priorité au secteur privé. Ce que nous avons vu depuis plusieurs décennies, c'est que la plupart des travailleurs étaient employés dans le secteur public et cela va changer. Nous nous focaliserons sur le secteur privé, les emplois et les investissements du secteur privé et tenterons d'orienter l'économie dans une direction où les acteurs du secteur privé seront les moteurs de la croissance et de la vitalité économique, a déclaré le ministre d'État libérien Augustin Jarrett. Le gouvernement libérien a su travailler avec ardeur à attirer les investissements privés pour aider à reconstruire les infrastructures, notamment à relancer les grands chantiers routiers et autres projets de construction à l'arrêt du fait de l'épidémie d'Ebola. Le secteur agricole qui emploie 70% de la force de travail au Libéria nécessite de grands investissements, estiment les autorités libériennes.
En Arabie Saoudite, le secrétaire d'État américain John Kerry a eu ce lundi des consultations qu'il qualifie de constructives avec le président yéménite Abdurabou Mansour Hadi, qui a cherché refuge dans le royaume wahhabite face à l'offensive des rebelles chiites houthis. M. Kerry souhaite une pause humanitaire dans la guerre civile au Yémen, il l'a dit lors de son escale hier à Djibouti, ici à Kaba.
Selon l'envoyé spécial de la VOA, Pam Dawkins, le chef de la diplomatie américaine, a aussi annoncé une nouvelle aide de 68 millions de dollars pour le Yémen. Ces fonds appuieront les agences qui fournissent vivres, eau, abri et autres à 16 millions de Yéménites dans le besoin. L'Arabie Saoudite, pour rappel, a mené des raids aériens au Yémen contre les rebelles chiites houthis qui cherchent à renverser le gouvernement de Sanaa. Monsieur Kerry a rencontré à Djibouti le président Ismaël Omar Guelleh et son ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Il les a remerciés pour leur assistance à des centaines d'Américains qui se sont réfugiés à Djibouti pour fuir la violence au Yémen, tout juste de l'autre côté du golfe d'Aden. Tout comme il l'a été en Somalie, John Kerry est également le premier secrétaire d'État américain à visiter Djibouti, où il a aussi rencontré les officiels américains au camp Lémonier. Cette base, dans l'ancienne colonie française de Djibouti, est devenue une partie importante de la présence militaire américaine au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est.
Les bureaux de vote sont ouverts au Royaume-Uni pour les élections locales et législatives où 45 millions de Britanniques choisissent leurs représentants au Parlement et dans diverses assemblées. Des précisions avec Morgane Guiriec.
Plus de 3900 candidats dans 650 circonscriptions ont fait de la surenchère verbale. La Grande-Bretagne doit choisir entre le conservateur David Cameron, qui brigue un second mandat de 5 ans, et son challenger, le travailliste Ed Miliband. Les sondages projettent des résultats très serrés. Si les conservateurs l'emportent, ils veulent organiser un référendum pour rester ou quitter l'Union européenne. Une victoire des nationalistes écossais pourrait les encourager à revendiquer un nouveau référendum d'indépendance après le rendez-vous vous manquez de septembre.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et aussi notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info.